Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes très heureux avec les confrères, bien sûr, en studio ici avec moi, bien sûr. Et nous sommes au mercredi 3 juillet 2024 et il sonne 11h sur votre radio. Et vous comprenez que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre ainsi. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Victor Guetomega est à la mise en onde. Jérôme Akoucha assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dabran. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, à savoir le YouTube, le Facebook et autres. Et bien sûr, nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Lébéné. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au mercredi et Gadiel Tondadi est là. Gadiel, bonjour.
Pascal, bonjour et bonjour à tous qui nous écoutent sur la radio Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Ça va bien chez vous.
Ça va aussi par la grâce de Dieu. Ouais. Toujours jaloux de ses acquis. Et, toujours commandant. Bonjour Yabassi Issaka.
Bonjour Pascal. Bonjour à tous les auditeurs autrices qui nous suivent sur moi.
Et ça n'a pas changé de grade, hein?
Non. Bon, il y a quelqu'un qui doit me changer de grade. J'attends d'abord. C'est toujours commandant.
Sinon, c'est toujours commandant. Et Fabrice Petizi, bonjour.
Bonjour et bonjour au conseil ici présent. Bonjour à tout le monde.
J'espère que tu vas bien.
Je vais bien.
Dieu merci. Estelle Koudzono, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères, bonjour aux techniciens, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM.
Merci d'avoir répondu à notre invitation, je le disais Gadiel. Nous allons parler santé alors aujourd'hui bien sûr, puisque santé éducation est dans les kiosques comme toujours. Et nous allons parler des sujets évoqués par santé éducation. Et donc, d'abord, c'est le numéro 773, hein, bien sûr.
Absolument.
Vous parlez alors de dengue, et vous parlez aussi des signes d'alerte et aussi des préventions de cette maladie.
Oui, la dengue, cette maladie que je pense en début d'année, février par là, le ministère de la Santé a déjà annoncé des cas. Et on continue pas à annoncer des cas. Donc la dengue, une maladie qui vient d'un moustique, un moustique particulier qu'on appelle l'Aedes. Un moustique, on peut un peu parler de ce moustique parce que il faut le reconnaître vraiment pour savoir que c'est ce genre de moustique. Un moustique de teinte noire, de couleur noire, mais qui a des teintes de couleur blanche sur ses pattes et un peu sur ses ailes.
Et ce n'est pas comme le moustique ordinaire que nous connaissons.
Non, c'est pas comme le moustique ordinaire. Si on veut parler de l'anophèle, l'anophèle est différent. Donc, c'est ça. Couleur noire et puis avec des teintes blanches au niveau des pattes, au niveau des ailes. Et c'est un moustique qui pique souvent dans la journée. On parle de le matin et l'après-midi. Et sa piqûre est douloureuse. Vous voyez que c'est un moustique qui est différent. Son mode opératoire est différent de l'anophèle femelle. L'anophèle femelle pique la nuit quand vous dormez. Donc, lui, c'est ce qu'il fait. Mais l'Aedes vous attaque en pleine journée. Et voilà, il vous pique et c'est douloureux. Vous allez voir que ça gratte et ça fait même de petits bosses là-bas. Et ce moustique est craint parce que son parasite, si on peut le dire, c'est favori, ce sont les virus. Et on sait que c'est un moustique qui transmet un virus qui donne cette maladie de dengue dont on parle. On craint même que c'est un moustique qui transporte des virus comme le virus Zika, le chikungunya, donc ce genre de virus avec ce moustique. C'est pourquoi c'est un moustique qui est craint dans plusieurs pays, surtout au niveau de l'Occident. Alors, quels sont les signes? Les signes sont pratiquement analogues, hein. Il y a une forte fièvre, plus de 40 degrés, et puis voilà, on a une céphalée, c'est des maux de tête assez durs. et puis d'autres, des couvertures. Alors, vous allez dire que c'est pareil un peu au palu. C'est sûr pourquoi beaucoup le confondent, bien confondent cette maladie au paludisme. Mais il y a aussi une forme hémorragique qui est faible, du moins qui est très rare, qui vient. Donc c'est une maladie assez sérieuse, la dengue. Et dans notre parution au papier, nous avons publié un article. Et puis sur nos sites internet aussi, on peut trouver un article complémentaire pour qu'on ait en tout cas une idée assez essentielle sur cette maladie, la dengue. En tout cas, nous invitons les uns les autres à lire ces deux articles sur nos deux supports.
Et tout à fait, nous invitons bien sûr les uns les autres à lire.
Maintenant, les articles, si vous permettez, pour la prévention, c'est clair. Pour un moustique qui pique, la prévention, c'est de dormir sous moustiquaire imprégné. Donc, voilà. Le Togo a fait la distribution des moustiquaires. Ça va pas encore plusieurs mois. Donc, on suppose que tout le monde a sa moustiquaire. Et dormir là-dessous, ou bien détruire les gîtes larvaires autour de nous. C'est un moustique qui se produit dans de l'eau claire et propre. Donc, si nous avons autour de nous de l'eau claire et propre qui ne sert à rien, essayons de couvrir, mais de détruire cela, c'est mieux.
Il y a certains qui ont leurs moustiquaires, mais ne dorment pas dans ces moustiquaires. C'est le lieu même d'ailleurs de les sensibiliser, de les appeler à dormir toujours sous cette moustiquaire comme cela se doit. C'est très important.
Absolument. Donc, dormir sous moustiquaire, en pleine journée, quand vous dormez dans la journée, dormir sous moustiquaire, parce que c'est un moustique qui pique maintenant. Donc, ça veut dire que quand on va faire dodo, il faut qu'on déploie notre moustiquaire.
C'est-à-dire, là, on imagine, on veut faire une sieste en pleine journée, donc on fait sortir alors sa moustiquaire.
Absolument. Sinon, il y a l'Aedes qui est là, ou bien la nuit, la neuf femelle qui vous attend. Donc, on n'est pas en sécurité, que ce soit.
On n'est pas en sécurité.
De la rue.
Tout à fait. Ouais. Alors, vous vous intéressez encore à un autre sujet, c'est ce sujet alors du nez qui coule. Vous titrez Le nez qui coule, gestes et remèdes.
Oui, parce que c'est la période, en tout cas, de la floraison des virus, des bactéries. Vous allez voir, ça va encore venir plus. Beaucoup vont commencer par avoir le nez qui coule, on sent une fièvre, on tousse, le rhume s'installe, la grippe vient, c'est la saison où les virus circulent. Donc attention, quand on commence par avoir le nez qui coule, il faut prendre rapidement des mesures assez importantes. Aller voir son médecin ou bien on propose là dans ce article un certain nombre de recettes. Mais attention, quand le nez coule, c'est que vous êtes déjà, il y a déjà un agent pathogène qui vous colonise. Donc, il faut prendre des mesures assez importantes pour ne pas, parce qu'il commence pas à faire frais. Et pendant la fraîcheur, ce sont ces parasites qui circulent souvent.
Quand votre nez coule, il faut comprendre que l'organisme est attaqué.
L'organisme est attaqué et l'attaque est sérieuse. Voilà. Et vous avez les premiers signes, le nez qui coule, la toux qui vient, on a une fièvre qui peut partir, qui peut revenir. Alors quand on sent cela, on se dit on est enrhumé parfois. Il faut rapidement aller se faire consulter pour les traitements. Maintenant à la maison, il y a des recettes maison. Oui. Parce que autour de ça, c'est quoi le secret? C'est de renforcer son système immunitaire. C'est absolument important pour garder sa santé.
C'est très important pour garder sa santé. Alors, ce qui est encore très important pour garder sa santé, c'est le sommeil. Et vous posez aussi des aliments à manger, bien sûr, pour arriver à faire un bon sommeil.
Oui, parce que, mais si vous permettez, j'aimerais faire un coup de gueule en ce qui se passe actuellement dans notre pays par rapport à l'alimentation. Aujourd'hui, que ce soit les frites, tubercules, frites, beignets, les bonnes femmes, bien les revendeuses qui font ces aliments que nous consommons, mélangent ces aliments avec de la glutamate, parce que beaucoup aiment ce goût-là. Et vous allez voir aujourd'hui, dans beaucoup de choses, il y a ce goût assez doux que les gens aiment. Donc on veut rendre tout doux. Et la dernière fois, on achetait même les beignets de soja. La femme plongeait les pâtes qu'elle a coupées dans de l'eau, mélangeait à la glutamate avant de mettre dans de l'huile pour frire. C'est grave, c'est assez grave, parce que c'est des aliments qui sont déjà tronqués quand on les fait comme ça. Et attention, on a beaucoup parlé sur les dangers de ce genre de glutamate, de ce genre de cube de bouillon. Cela crée beaucoup de problèmes sur la santé des personnes. Vous voyez un peu autour de nous, beaucoup de personnes tombent malades, surtout ceux qui mangent dehors. Faites attention là où vous choisissez, en tout cas vos aliments que vous mangez. Même à la maison, faisons attention d'utiliser ce genre de produits. C'est toxique, il faut le dire, c'est toxique. Et la plupart du temps, c'est l'hypertension, voilà. Vous voyez, c'est des problèmes cardiaques. Donc, c'est en tout cas, c'est cette parenté que je voulais ouvrir comme un coup de gueule. C'est très mauvais pour la santé publique.
D'accord. Maintenant, quels sont les aliments ou quelle alimentation alors pour un bon sommeil?
Mais l'alimentation pour un bon sommeil, c'est bien décrit dans cet article. Vous savez, quand vous mangez mal le soir, vous n'allez pas bien dormir. Ceux qui prennent un certain nombre d'aliments comme des frites, comme des aliments très sucrés, très gras, même si vous dormez, vous ne dormez pas bien. Vous n'avez pas ce qu'on appelle le sommeil réparateur. Là, il faut le reconnaître. Donc, aujourd'hui, l'alimentation, c'est le secret de notre sommeil. Beaucoup n'arrivent pas à bien dormir parce qu'ils mangent mal le matin, à midi et le soir. Et cela crée beaucoup de problèmes de santé. Plus de 15 à 20% de personnes ne retrouvent pas le sommeil réparateur la nuit. Donc c'est assez grave. Cela conduit à des maladies cardiovasculaires. Donc dormir, c'est important parce que c'est un phénomène de santé. Si on ne dort pas, si on ne mange pas bien.
Donc, on dit même que c'est un médicament naturel.
Absolument. Si on ne mange pas bien, si on ne dort pas bien, si on ne fait pas les activités sportives, donc là, on est en échec par rapport à la vie. Il faut le reconnaître. Donc, cet article nous donne un peu le secret des aliments qu'il faut prendre pour avoir un sommeil réparateur la nuit. C'est absolument important pour nous tous.
D'accord, c'est important pour nous tous. Alors, un dernier article qui nous intéresse dans cette parution, c'est cet article qui porte sur le complexe alors d'infériorité. Et vous parlez alors d'une souffrance.
Oui, Pascal, c'est un problème dont on parle très peu, le complexe d'infériorité. Et les antibiotiques que nous avons pris pour faire ce tartiste, c'est ce qui se passe dans nos bureaux, dans nos services, par rapport à ce genre de personnel qu'on peut appeler les personnels de bas niveau. Hein. Vous êtes par exemple un cadre dans un bureau et il y a des plantons, vous avez des collaborateurs qui sont là. Et la manière dont vous les considérez va déterminer ce qu'ils pensent d'eux. Et dans beaucoup de bureaux, beaucoup souffrent de ce complexe d'infériorité parce que chaque jour, on leur fait savoir qu'ils ne sont absolument rien, qu'ils ne valent rien, peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup de diplômes, le poste auquel ils sont, ils n'ont pas de pouvoir décisionnel. Et d'après cet article, c'est très intéressant, cela que le stress, l'angoisse, des fois même la peur, et même des gens sont dans la dépression par rapport à ce phénomène. Donc c'est un article important que nous avons fait avec un spécialiste. Vraiment, quand nous poussons nos confrères à vivre un complexe d'infériorité, c'est très mauvais pour leur santé.
C'est très mauvais pour leur santé. Tous ces articles, c'est à retrouver dans votre journal La Santé Éducation, le numéro 773, hein, paru ce matin, bien sûr. Et c'est à quel prix?
À 1000 francs, le journal papier. Et voilà. Puis la version numérique téléchargée sur nos sites internet à 500 francs. www.santé-education.tg.
Gazelle, merci d'être passé alors dans cette émission et merci de nous avoir. Justement, à la semaine prochaine, nous allons nous retrouver. Merci d'être passé. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse après avoir parlé santé avec Gadiel Tsonadi. Sylvestre Béni nous a rejoint. Sylvestre, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous.
J'espère que tu vas bien.
Ça va.
D'accord. Alors, nous démarrons cette émission avec ce sujet, hein, ce sujet que vous avez traité à la une de votre journal. Il s'agit même d'ailleurs des examens. Les examens, on sait très bien que les résultats ont commencé quand même par tomber déjà. Nous avons eu déjà les résultats lors du bac 1 et aussi les résultats lors du bac, du BPC. Et c'est ce qui nous intéresse, bien sûr, avec le score catastrophique, dira quelqu'un, du BPC, alors cette année 2024, puisque c'est à 48%, bien sûr, contrairement à ce que nous disions, il n'y a pas défaut, bien sûr, en disant que c'est à 44%, non, c'est plutôt 48%. Alors, 44%, et vous titrez, hein, à la une sur le sujet BPC 2024. Statistiques catastrophiques, urgence d'un débat national. Aujourd'hui, avec ce score, il est impératif d'avoir un débat national. C'est ce que vous prévoyez?
Oui, je crois, parce que vous savez, depuis un moment, tout le monde est conscient que le niveau baisse. Mais au niveau donc des gouvernants, on ne prend pas des initiatives sérieuses et pérennes, ne serait-ce que pour corriger le tir. Oui, le BPC de cette année, vous l'avez si bien dit, 48,18%. Contrairement à l'année dernière qui est au-delà donc de 80%.
Tout à fait.
Vous voyez que nous sommes en deçà de moitié. Et lorsque vous prenez également le probatoire sur les deux dernières années, vous verrez que ça descend et ça décroît. Ça descend également véritablement. Donc, je crois qu'il y a nécessité, c'est de l'urgence donc de poser un débat national sur le sujet. Je l'ai dit d'entrée que tout le monde est conscient que le niveau baisse. Mais on ne prend pas des initiatives assez sérieuses et pérennes et durables, ne serait-ce que pour corriger le tir. Parce que si on continue donc à former des enfants qui, bon, peut-être souffrent du terme, si on continue à former entre guillemets des médiocres, vous conviendrez avec moi que c'est une chaîne. Les médiocres ne peuvent que former d'autres médiocres et la chaîne continue. Et si rien n'est fait aujourd'hui, hein, et peut-être que s'il y a un plan qui est devenu donc une plante, si vous voulez le redresser, vous risquez donc de le casser. Donc il faudrait qu'on prenne des initiatives, lois. Tout le monde dit, mais personne ne prend des initiatives. Et surtout avec la PC aujourd'hui, on ne corrige plus le français dans les autres matières. C'est-à-dire que si peut-être en histoire, par exemple, je dis, c'est Dietrich qui a fondé le ville de Lomé, au lieu de la ville de Lomé, on te donne le point. Parce que c'est Dietrich qui a effectivement fondé la ville de Lomé. Au lieu de la ville, tu dis le ville. À l'époque, c'est vrai que tu as trouvé donc la réponse, mais on t'allait au moins un demi-point. Au lieu de la ville, tu as dit le ville. Mais aujourd'hui, bon, c'est Dietrich qui a fondé le ville. Bon, c'est ça, on t'accorde le point. Donc tout ça, là si...
Et là, vous pensez que nous formons des médiocres?
Oui, c'est-à-dire que si l'enseignement est au rabais, vous verrez qu'on n'aura que des étudiants ou des enfants au niveau qui est en deçà donc de ce qu'on a connu il y a des années. Hein? Il fut des années, nous avons appris le train de 10 heures. Ceux qui ont eu le CEP étaient déjà prêts à enseigner. Aujourd'hui, les jeunes qui sortent avec le CEPD, nos enfants qui sortent avec le BPC, et ce n'était il y a une dizaine d'années, le BPC, c'était celui qui a eu 150 pour passer, parce que c'était 150 le point. Et fêtait beaucoup plus que ceux qui ont eu au-delà de 180, parce que lui, il a eu juste tout ce qu'il faut pour ne pas mourir. Mais aujourd'hui, je crois que c'est encore en deçà. On revoit tout en deçà. Je crois que si on le fait comme ça, on aura donc, la relève ne sera pas suffisamment assuré. D'accord. Parce qu'il faudrait une relève compétente et aguerrie pour poursuivre donc l'œuvre de l'émergence du pays.
Ah ben, ce qui m'intéresse sur l'article alors de Sylvestre, c'est qu'il a illustré même d'ailleurs l'article avec des jeunes gens, des élèves qui sont en kaki, mais qui sont quelque part en train de prendre alors de peau de tout.
En
tenue, bien sûr. Ils sont en kaki, ils sont en tenue, bien sûr. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience au niveau même d'ailleurs des élèves?
Les élèves ne prennent pas conscience.
Tout à fait. Qui doit prendre? Oui.
Qui doit prendre? Parce que quand vous prenez l'image là, m'a beaucoup plu. Et c'est le comportement maintenant des élèves qui fait que aujourd'hui nous avons cette baisse de niveau au niveau des choses. quand vous les prenez, vous allez voir même des élèves qui embêtent leur professeur. Ils s'en foutent de leur professeur. Et même ici, sur cette photo, le professeur peut être invité à ce pot de chouk là, là où ils sont en train de faire, pour venir prendre du chouk avec eux. Ça, rien leur dit. Alors qu'auparavant, ces choses-là ne se passaient pas. Tu vas arriver, même si tu vois ton professeur ou bien ton maître instituteur arriver, tu vas te cacher quelque part. Maintenant, vous allez voir des élèves dans leur sac. Ils ont les Red Bull qu'ils ont mis dedans. Et ils s'en vont à l'école. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il n'y a plus de bâton. Il n'y a plus de bâton et le professeur, s'il ose toucher un élève, c'est que lui, il est cuit. Et ces conséquences-là sont en train de réduire à néant les jeunes écoliers, les jeunes élèves. Je ne sais pas comment, comme Sylvain a parlé de débat général, débat national sur cette question. Il faudrait qu'on puisse revoir cette situation de bâton à l'école qu'on a enlevé et qu'on puisse revoir le comportement des enfants qui n'ont plus peur même de leurs professeurs.
Quoi, vous souhaitez qu'on ramène le bâton dans les classes?
Bon, quand c'est à travers ce débat-là, on peut dire ce qu'il faut pour corriger les élèves. Parce qu'aujourd'hui, un élève peut sortir et gifler son professeur.
Ça s'est passé déjà.
Un élève sort et gifle son professeur.
À pas l'aimer.
Personne ne va rien lui dire.
Comment ça?
Ça se passe dans les écoles.
Ça s'est passé à Palibé, tout récemment.
Et personne ne va rien dire. Ça doit inquiéter.
Ça inquiète. La baisse du niveau dont on parle, c'est toutes ses origines sont là-bas.
D'accord. Fabrice, c'est des responsabilités partagées. Quand on parle d'ailleurs de ces...
Je crois que ce taux de réussite fait débat tout simplement parce que ces 10 dernières années, pour ne pas exagérer, on n'a jamais eu ce débat. Moi, mon BPC était de 40%. Donc, c'est parce que depuis quelques années, on est au-delà. Vous avez même vu le bac de l'an dernier. Il avoisinait les 80%.
Tout à fait.
Du jamais vu. Moi, j'ai le bac jusqu'en 2004 n'a jamais dépassé
50%. Donc, on disait même d'ailleurs que le bac a été démystifié.
Oui, donc c'est pour cela aujourd'hui, je me perds un peu dans ce débat. C'est-à-dire que lorsqu'on vient avec des taux de réussite à 80%, on dit à baisse de niveau, qu'on ouvre trop les vannes, les enfants réussissent trop. Alors aujourd'hui, on a un taux à 48%. Bon, on dit aussi à baisse de niveau, bon, les enfants n'apprennent pas. Bon, c'est, en fait, moi, je crois que il y a un problème qui s'est posé au BPC. Parce que c'est l'idée au BPC. Au même moment, le problème est au-delà de 110%.
Soit 11%,
bien sûr. Ouais, mais en décembre par rapport aux deux.
Oui, mais c'est-à-dire que c'est la tendance quand vous prenez, je sais pas, la pyramide, ou du moins, comment les géographes appellent ça, de réussite ces dernières années, vous allez vous rendre compte que tous les au CPD, même, il n'y a plus d'échecs. On a connu des CPD dans ce pays, dans les années 80, où ceux qui réussissent, c'est des héros. Et donc, je crois que, en fait, ce résultat du BPC de cette année, c'est parce qu'il est différent, complètement différent, de ce qu'on a l'habitude avoir, on n'était plus habitué à cette réussite. Et là, je suis d'accord pour dire que il faut qu'on se demande c'est quoi le problème. Bon, maintenant, il y en a qui indexent, on balance plusieurs hypothèses, d'autres parlent de l'enseignement APC. Or, APC ne date pas de cette année. C'est avec le même APC que les probatoires, les élèves du premier ont réussi. C'est avec ça on va proclamer le CPD bientôt. C'est la même chose. C'est avec ça les gens ont réussi en grande masse l'an dernier. Bon, on vient dire les élèves n'apprennent pas. Bon, est-ce que c'est cette promotion exactement qui n'a pas appris? Et que, bon, pourquoi l'année passée c'était à 80? Et même quand vous prenez la même promotion cette année, il y a des établissements Lomé qui sont au-delà de 90%. C'est là où moi je comprends pas. Parce que certains ont parlé aussi, bon, est-ce que c'est les épreuves? Parce que quand un examen est catastrophique, le taux de réussite est bas, il y a plusieurs paramètres. Est-ce que les épreuves étaient abordables? Mais là, apparemment, il n'y a pas eu un tollé comme cela au niveau des épreuves, à part certains qui parlaient de l'épreuve de mathématiques. Mais là, vous venez, on vient au niveau de la correction. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le problème, c'est que il y a un grand faux, c'est-à-dire il y a une très grande différence entre les extrêmes. Je ne peux pas comprendre qu'à Lomé, un établissement les établissements sont à certains sont à plus de 90% et quelque part dans la région centrale, c'est-à-dire on dit que c'est deux personnes qui ont réussi pour suivre 72 quoi. C'est-à-dire vous voyez un peu, c'est un peu disparate. C'est ça il faut chercher à comprendre. Je ne peux pas comprendre comment ailleurs il y a des établissements qui pratiquement ont 100%, mais au même moment il y a des établissements où personne n'a réussi. Alors est-ce que c'est le même programme qui a été donné aux élèves? Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'il y ait cette différenciation? Parce que si on avait 48% et on prend tous les résultats, ils sont presque au même niveau. Mais ici, le dernier est trop loin du premier. Et moi, je connais un établissement à Lomé. Ils ont 21 personnes qui la mentionnent très bien. Comment ça s'explique? C'est les mêmes élèves togolais. Et moi, je me suis amusé, puisque je ne maîtrise plus les programmes scolaires avec tous les changements. Je me suis amusé, c'est la seule épreuve de ECM, classe de 3e. Mais quand j'ai vu l'épreuve là, ben, je me dis que nous, on nous a fait beaucoup de cadeaux. Nous, on citait les ailes marchandes du RPT. On définissait JRPT par ici, en civisme, et puis ça passait. Ben, amusez-vous à prendre l'épreuve de ECM cette année de la classe de 3e. Qui est passé à coefficient 2, qui est obligatoire. Prenez cette épreuve, mais c'est carrément l'actualité et tout cela et autres. Et donc, le problème, la question, quand on me dit aujourd'hui que le niveau baisse, c'est tout un débat. Hein. Moi, j'ai plutôt que le niveau baisse au niveau des langues. C'est-à-dire que les générations passées, les gens étaient plus forts en français que les enfants d'aujourd'hui. Mais est-ce que c'est valable pour toutes les matières? Vous allez prendre à des enfants qui ont 20 sur 20 en mathématiques. Ce que les gens... Et c'est, moi, je crois que... ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les enfants qui vous débloquent les portables à des coins là, ils parlent quel français? Aujourd'hui, on dit, il faut pour avoir le passeport, il faut faire les choses en ligne. Et moi, je vois les doctorants, ils vont à GTA là-bas, c'est les enfants qui les aident même à faire les trucs en ligne. Donc, la question de baisse de niveau... Il faut un débat profond pour savoir à quel niveau. Je ne pense pas que c'est valable pour toutes les maths.
D'accord.
Quand il parle, il y a les histoires de train de 10 heures où, parce que tu as raté la dictée, on a mis fin. Mais il y a des gens qui ne faisaient pas bien la dictée à l'école, mais aujourd'hui, ils ont fait leur doctorat. Dans d'autres domaines. Donc, moi, je crois qu'il faut poser sérieusement le problème. Mais pour un débat général, par rapport au programme scolaire en général. Mais pour le cas précis du BPC de cette année, il y a quelque chose à expliquer.
Tout à fait.
Pourquoi c'est dans le Grand Lomé, les scores sont un peu plus élevés et pour le reste du pays, pratiquement, c'est la catastrophe.
D'accord.
Il y a quelque chose qu'il faut expliquer
aux
gens.
Tout à fait. Il y a justement quelque chose qu'il faut expliquer. Alors, je rappelle tout simplement que au niveau alors du classement BPC cette année 2024, c'est le Grand Lomé qui occupe la première place avec 65,85%. Il y a la région de la Cara qui occupe la deuxième place avec 39,11%. Troisième, région maritime, 36,72%. Quatrième, Savane, 31,27%. Cinquième, Plateau S, 30,72%. Plateau Ouest occupe la sixième place avec 28,96%. Et la Centrale est à la septième place avec 21,48%. Alors, SL, quand on voit tout ce score, c'est vrai qu'il y a cette disparité qu'évoquait tout de suite alors Fabrice. Mais au-delà de tout, on pourra se dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché?
Oui, la question vaut tout son pesant d'or. Depuis la proclamation des résultats et la sortie des pourcentages, je me suis évertuée à comprendre ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui explique cet état de choses, mais jusqu'alors, je n'ai pas aussi un argumentaire convaincant pour justifier ces chiffres-là. Le plus curieux, comme l'ont dit mes confrères tout à l'heure, c'est ce grand fossé qu'on remarque entre la région maritime et le reste des régions.
Grand Lomé,
le reste des régions. Comment ça s'explique? C'est les mêmes programmes que les élèves ont fait sur toute l'étendue du territoire. Je ne sais pas, j'ai pas vérifié si tous les enseignants ont terminé le programme ou pas, mais c'est le même programme qui a été effectif dans tous les établissements. c'est les mêmes enseignements, les mêmes procédures, et comment est-ce qu'on peut comprendre cet état de choses? Est-ce que c'est au niveau de la correction que des consignes ont été données? Puisque j'ai ouï dire que les consignes ont été fermes au niveau de la correction, d'aucuns même disent que c'est des critères de l'ancienne approche, l'approche par objectif qui a été utilisée, ce n'est plus l'approche par compétence. C'est ce qu'expliquait Sylvestre tout à l'heure, c'est-à-dire corriger même le français dans les réponses, par exemple en histoire, géographie, en SVET et tout ça là, que les consignes ont été fermes, histoire de rétablir un peu les choses. Mais j'avoue que je me sens un peu perdue dans tout ça là. Il n'y a pas un argumentaire aujourd'hui logique et convaincant qui puisse nous amener à comprendre ces disparités-là, ces grands fossés dont le débat doit vraiment se poser pour qu'on situe les choses. Et aujourd'hui, même faire le point au niveau de l'enseignement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Est-ce qu'on doit retourner au niveau de l'ancienne approche par compétence pour vraiment redorer le blason de l'éducation, ou on doit plutôt maintenir cette approche-là? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut vraiment adapter? Mais en même temps, je tiens à attirer l'attention par rapport à la question de débat sur la baisse de niveau là. Moi, j'ai comme impression, et Fabrice l'a un peu dit tout à l'heure, n'oublions pas que quand l'impérialiste est arrivé, lui, il était dans une logique d'avoir des personnes qui parlaient en fait sa langue. Je veux parler spécifiquement de la colonisation française. Lui, il avait besoin des personnes qui parlaient vraiment le français pour faire dominer en fait son idéologie et expliquer, même que ce soit au niveau des religions confessionnelles et tout ça là, pour imposer en fait son idéologie. Du coup, la formation s'était appesantie beaucoup plus sur les matières littéraires, sur le français, ce qui explique même le train de 6 heures, le train de 8 heures, le train de 9 heures à l'époque. Je rappelle qu'il a empêché même des gens de continuer leur cursus scolaire. Des gens ont quitté les établissements scolaires comme ça. Ils n'ont pas continué juste parce qu'ils n'ont pas eu à valider peut-être la dictée ou l'étude de test en faisant un nombre de fautes. Donc, c'était en fait une redirection ou une stratégie pour former plus de littéraires. On n'avait pas appesanti la formation sur les matières scientifiques. Et aujourd'hui, on a comme impression que quand les enfants ne réussissent pas en français, c'est qu'ils ne réussissent nulle part. Alors qu'avec l'ère numérique, aujourd'hui, il y a des enfants, des gamins qui font des merveilles un peu partout. Donc, tout ceci nous amène en fait à reposer le débat et voir comment est-ce qu'il faut rediriger aujourd'hui l'enseignement, les curricula, les paradigmes, et faire avancer vraiment tout le système pour vraiment peindre les choses et avancer.
D'accord. Oui, mais merci. Effectivement, quand vous prenez surtout l'Afrique francophone, il n'y a que des littéraires. Même ceux qu'on appelle scientifiques là, même aussi, faut-il qu'ils soient.
Justement, on fabrique quoi? On innove en quoi?
On est plus littéraire. Et quand vous prenez, aujourd'hui, on tient tête au blanc. Quand il s'agit de parler français et d'écrire, on tient tête au blanc. Mais vous ne leur tenez pas tête pour faire la meilleure médecine, c'est chez eux. Mais vous n'avez pas besoin d'aller en France pour être bon en littérature. Ici, vous avez tous les moyens qui peuvent vous permettre pour être bon en lit. Mais la technologie, c'est eux qui l'ont. Et ça, nous, on l'a pas. Et depuis la colonisation, effectivement, c'est les littéraires en forme.
D'accord.
Et aujourd'hui, quand vous parlez bon français, bon, on dit que oui, vous êtes allé à l'école.
Voilà, on attend juste le petit pépin. Aujourd'hui, quand tu, pas inattention, même quand tu commets une erreur, on se moque de toi et tout ça là. Donc, tout se résume en fait au français. J'ai comme l'impression que tout se résume au français. Pendant ce temps, ceux qui nous ont mis dans cet état sont en train ils sont dans la technologie, ils innovent. Et c'est nous qui allons consommer encore ce qu'ils nous fabriquent. Nous accrochons juste au français qui, pratiquement, ça aussi, c'est pas juste pour discuter et blablater, quoi.
Il faut aujourd'hui quand même que nous arrivions à adapter notre système éducatif, surtout même à notre réalité, c'est ça.
Ça aussi, c'est un débat.
C'est un autre sujet, bien sûr.
C'est un autre sujet, parce qu'on nous a abreuvé à l'époque où on connaît donc les villes françaises, les favelas américains, la culture sud-africaine.
On a étudié même le Japon, l'URSS en son temps.
Même on va ici, on ne connaît rien donc de
même de notre pays.
De notre pays. Donc, mais ça c'est un fait. Je crois que ce débat-là aussi se pose. Mais c'est l'occasion de faire un bilan, puisque à l'ouverture donc de chaque rentrée, c'est vrai, il y a le ministre Kokoko qui l'a initié. Il y a des échanges et tout ça pour voir la manière dont la rentrée sera abordée. Tout. Donc à la fin, il faudrait véritablement aussi qu'on fasse un bilan pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et savoir comment orienter donc les futures rentrées. Je crois que c'est ce que nous ne faisons pas ici, pas uniquement du côté donc de l'école et tout. On initie des projets, et après on part de projet en projet sans faire le bilan. voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Je crois qu'on va donner, il faut le faire. Et donc, si on pouvait déjà commencer par ce taux-là du PPC, c'est important. Mais l'autre chose également à arriver, c'est que les réseaux sociaux ont tendance à prendre le pas. Sur les enfants sont plus connectés aux réseaux sociaux qu'à leur cahier. Ça, c'est également un fait. Sinon, ce jeune-là qui allait même ôter la vie à quelqu'un à Gbavi pour prendre un téléphone portable, qui était, je crois, selon les informations en terminale à l'époque. Oui. Aujourd'hui, ce jeune, donc, de l'enfant, comment vous l'appelez, compagnie de Caraville 1, qui, même le professeur, elle, lui, son téléphone, il dit, le professeur, elle, on s'en fout, il fait du TikTok et tout. Vous voyez? Tous ces paramètres-là, et même...
Elle allait avoir le bac avec ma
soeur. Oui. Cette jeune fille qu'on a aperçue, les vidéos qui ont circulé entre 2000 et 2001, où on a vu de jeunes filles danser, et je crois, dans les écoles privées, l'homotif et tout ça qu'on a vu. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut sévir un peu.
D'accord. Non. Mais c'est pour cela que je dis la disparité des résultats me pose problème. Quand on évoque les sociaux, portables, tout ça, là, c'est Lomé. En réalité, ces outils-là, on a plus de chances de les utiliser à Lomé. Mais voilà, c'est ce grand Lomé-là qui a les plus grosses scores. Or, par le passé, c'était pas ça, hein. Je n'ai pas les statistiques sous la main.
Je crois qu'il y a deux ans, c'était l'intérieur.
Sur ce BPC-là, il y a des choses qu'on doit...
Il faut poser un débat.
Justement, il y a un débat. Alors, nous allons quitter le sujet.
On n'a pas encore tous les résultats. Parce que le problème des réseaux sociaux...
Tout à fait. Je voudrais...
Parce que les TikTok, lorsque vous allez dans la région centrale...
Aujourd'hui, c'est le fief des TikTok maintenant.
Les gens ne pensent même pas à faire d'autres choses que TikTok. Et c'est direct et les gens s'insurgent sur les TikTok. Donc tout le monde est concentré sur cette affaire de TikTok. D'où la nécessité de revoir ce qui se passe aussi dans tout le pays par rapport à ces résultats. On ne dit pas que c'est les résultats de BPC. Il reste, maintenant on attend les résultats du CPD pour voir comment les choses vont se passer.
Et selon les informations,
il y a les résultats du BAC également qui sont là. Donc, c'est le probatoire qui a pu avoir un taux un peu élevé. Parce que le système APC qu'on nous a amené, je pense que ça aussi, ça peut aider. Mais la colonisation nous a mis dans une situation où nous allons à l'école, c'est pour venir rester dans le bureau. Être bureaucrate, cravaté. Or, quand tu vas dans le système anglo-saxon, ce n'est pas ça. Les enfants sont déjà en même temps... Ils étudient dans les écoles là,
la théorie et la pratique
que tu vas faire et tu vas. Mais ici chez nous là, et c'est pour ça les gens crient qu'il y a du chômage.
D'accord, merci beaucoup Abbas. Mais quand on parle alors des réseaux sociaux et des TikTok, vous me donnez même une transition pour l'autre sujet ou le prochain sujet. C'est par rapport même d'ailleurs à cette publication de Matt Fary sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, ce qui lui a valu même d'ailleurs quelques jours de garde à vue. Et elle a été libérée, mais sous condition bien sûr. Fabrice, alors quand on prend le sujet aujourd'hui, Matt Fary, c'est une écrivaine et une actrice également de la société civile.
Elle est journaliste aussi.
Et donc, quand on prend cette question des réseaux sociaux avec nos publications aujourd'hui, il est très important d'être prudent et d'être vigilant, c'est ça?
Oui, bon, c'est vrai que pour Marthe Faré particulièrement, j'ai l'habitude de suivre ses publications. C'est vrai qu'elle est sur une thématique qui, a priori, au départ, ne doit pas poser problème. Le féminisme,
tout à fait,
ça là et autres. J'ai été un peu surpris qu'elle se retrouve. Mais ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est un phénomène actuel. Hein. Je crois que quand vous prenez, il y a plein de gens qui entrent en prison tous les jours et ils ressortent à cause de l'usage des réseaux sociaux suite à des plaintes introduites par des personnes. Donc, effectivement. Là, ça, c'est un débat global. Je ne parle pas de Marthe Fary, parce que je ne sais exactement pas qu'est-ce qu'elle a pu publier, qu'est-ce qui lui a fait ce problème. Bon, il paraît que c'est une vidéo et tout cela.
Oui, dans laquelle il y a une femme qui est en train de prier devant le siège alors d'un parti politique.
Aujourd'hui, nous avons des tests, des nouveaux tests qui régissent ces domaines-là. Et il faudra effectivement faire attention à ce que nous publions sur les réseaux sociaux pour ne pas tomber dans certains pièges. Mais j'avoue que quand vous prenez pratiquement la sous-région, que ce soit la Côte d'Ivoire ici ou le Cameroun et tout cela, il y a beaucoup de plaintes sur des questions liées aux les insultes sur les réseaux sociaux et tout cela, ou même des gens de la diaspora qui arrivent parfois en le cueil à l'aéroport directement. C'est pour aller dans des lieux de détention pour qu'ils expliquent sur certaines publications. Il y a une tendance à une certaine... Parfois, c'est amusant pour certains. Mais c'est dans cet amusement-là, ça peut se relever délicat. Parce que ce que peut-être vous pouvez penser à un truc simple, ça peut prendre une autre tournure. Si quelqu'un veut vous créer des problèmes, il a tous les éléments rassemblés pour vous en créer. Maintenant, en ce qui concerne les journalistes, je crois que on va plus revenir sur le débat. Ça a tellement fait des dégâts dans nos rangs qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce à quoi s'en tenir.
C'est vrai, quand on suit même la vidéo publiée par Matt Faré, il est reproché même d'ailleurs à Matt Faré qu'elle a publié une vidéo sans le consentement de la personne même d'ailleurs qui était en action. Donc aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous devons faire attention.
Bien évidemment, le numérique, même si tout n'est pas réglementé aujourd'hui spécifiquement concernant les journalistes, de manière générale, il y a le code qui régit, il y a la loi sur la cybercriminalité qui régit un peu ce domaine-là.
Donc, et même le code pénal en
le
parle.
Le code pénal également en partie en parle. Donc, il faut qu'on fasse vraiment attention. Il y a le droit à l'image. Et le droit de diffusion également. Ce n'est pour rien que quand vous voyez la une du confrère Sylvestre aujourd'hui, même si la vidéo est déjà, la photo est dans le domaine public, il a pris soin de voiler la face des élèves, malgré le fait qu'ils se soient exposés même en tenue sacrée, mais en train de prendre du tchouk. Donc il y a tous ces tests-là, on doit vraiment faire attention. C'est vrai que avec TikTok, ça va vite. On se dit, bon, je sors mon téléphone, je fais une petite vidéo, je balance. Quand tu écoutes la vidéo, bon... on dirait qu'elle s'amusait, elle se questionnait juste, mais tout de suite ça peut prendre d'autres considérations et je crois que c'est ce qui est arrivé. Donc on doit s'en tenir au test et vraiment faire attention, ne pas se laisser emporter, ne pas diffuser des images ou des vidéos sans le consentement des personnes concernées ou prendre quand même le soin de voiler les choses pour éviter tout problème. Les tests sont là, on les respecte.
D'accord, Sylvestre, quand on suit la vidéo publiée par Matt Faré, on dira mais interpellé pour ça aussi.
Oui, j'avoue que tout est confus et ambigu parce que en réalité, ma question c'est qui est donc qui a porté la plainte, qui a donc.
Il a été dit, selon justement alors les informations, que c'est la famille de la dame plutôt qui a porté plainte.
Ah bon, donc ça veut dire que parce qu'en réalité, lorsque vous regardez la vidéo, c'est une dame. Bon, vous voyez, tout est dans le noir aussi. Vous ne pouvez pas, elle ne peut pas être facilement identifiable. Et qui priait donc devant le siège donc de Uni au niveau donc de Agbalpédo. Et donc, bon, si c'est la famille qui a porté plainte, bon.
C'est voilà, confirmé.
C'est confirmé que c'est
voilà,
la.
Pas seulement, je ne peux pas rentrer dans les délais parce que je ne maîtrise pas les tenants, les aboutissants.
C'est pourquoi je disais que tout est confus à Bubu parce que. Je me disais que du fait donc de la vidéo, est-ce que la personne qui priait pouvait même est-ce qu'elle peut prendre ce risque là de quoi, qu'elle soit connue du public, voyez-vous. Donc bon, si c'est la famille, bon, on verra. Je crois que le délivré c'est pour le 15 juillet selon donc les informations. Bon, on verra, on aura donc le délibéré le 15 juillet et puis on pourra peut-être véritablement apprécier. Si c'est le ministère public qui s'est auto-saisi donc de l'affaire, ou c'est véritablement il y a quelqu'un qui a porté plainte et tout ça, on en saura davantage.
D'accord. Abbas, ce qui est sûr, pour ce qui concerne surtout nos publications sur les réseaux sociaux, là, il est très important d'être prudent et d'être vigilant aussi pour ce que nous devons envoyer sur, la toile.
Oui, effectivement, il y a des tests qui sont pris et nous devons les respecter. Aujourd'hui, vous avez vu que même la domination de la HAC a changé pour dans la nouvelle constitution de la République. On parle de la haute autorité de l'audiovisuel, de la communication et du numérique. Oui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut faire attention lorsque nous avons des situations en face et que nous avons même des choses à publier qu'on doit...
Notre code doit être retouché.
Bon, on ne sait pas si ça
peut être... Actualisé et mis à jour.
Le code doit être actualisé par rapport à la nouvelle constitution.
Justement.
Donc, aujourd'hui, nous devons faire attention. Les tests sont là. Quel que soit le cas, il faut qu'on respecte les tests. Lorsque nous respectons les tests, je pense que nous allons nous en sortir. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que pour Matt Faré, elle a fait une vidéo et il paraît qu'elle a parlé dedans dans l'audio. Si la dame est en train de faire les incantations devant le parti politique uni,
devant le siège,
elle priait bien incantation. Les gardiens qui sont là-bas pouvaient aussi la chasser. Donc, mais on attend les délibérés dans 2 semaines parce qu'elle est libre sous caution judiciaire.
Depuis le lundi.
Depuis le lundi. On attend jusqu'au 15 dans 2 semaines voir ce que la décision va donner.
D'accord. Alors, Fabrice, nous allons aborder un autre sujet. Il y a Abbas qui parlait de la 5e République. Allez, on ne va jamais quand même finir d'en parler puisque nous y sommes et avec cette nouvelle constitution. À la une de votre journal ce matin, je lis parce qu'il y a des contestations par rapport à cette nouvelle constitution. Je lis contestation de la 5e République. La rue lâche l'opposition. Et il y a Abbas et Issaka également qui... apporte alors de l'eau à votre moulin en titrant la une alors de son journal Le Mania Libéré, le Togo déjà installé dans la 5e République, à quoi servent encore les meetings de contestation et de sensibilisation? Alors déjà on pourra dire qu'avec les contestations, rien ne sortira alors de ces contestations, c'est ça?
Oui, comme vous le dites, la 5e République, je crois que lorsqu'elle a été déjà annoncé, lorsqu'elle était en gestation, il y a des Togolais qui n'en voulaient pas, il y a des partis, bref, presque beaucoup de partis de l'opposition n'en voulaient pas, une bonne partie de la société civile aussi n'en voulait pas. Des initiatives ont été faites, même pratiquement à la veille des élections, pour manifester ce mécontentement-là. Bon, malgré tout, le processus s'est poursuivi. Finalement, la constitution a été votée et nous sommes allés à une élection où les gens aussi attendaient une occasion également peut-être pour sanctionner le parti au pouvoir qui a l'initiative de cette constitution. Mais là aussi, ce n'est pas passé. Ça a été pratiquement un raz-de-marée pour unir qui prend 108 sièges sur 113. Et aujourd'hui, tous ces partis politiques et ces organisations de la société civile n'en démordent pas. Elles continuent, elles ne lâchent pas. Et la dernière fois, il y a eu un meeting et là aussi, la mobilisation n'était pas au rendez-vous. Ces associations n'ont pas fait recette en ce qui concerne le monde qui était attendu.
C'était le samedi dernier,
ouais,
bien
samedi
sûr.
Dernier. Et donc, quand je regarde un peu, je revisite un peu l'histoire sociopolitique de notre pays, vous allez vous rendre compte que les manifestations de rue ont été une arme que l'opposition a toujours utilisé dans le pays. Parfois ça a marché en termes de ça contraint parfois le parti au pouvoir à concéder des dialogues, des discussions, à prendre certaines revendications en compte. Mais je me rends compte que ces derniers temps, pratiquement, ça ne fait plus recette. Quand on appelle les gens à des manifestations, une sorte, ça se limite pratiquement aux organisateurs eux-mêmes. Et surtout, le Front Citoyen Togo Debout n'arrive vraiment pas à réaliser ce que le collectif Sauvons le Togo a fait dans les années 2012 avec les mobilisations qu'on voyait. Donc en conclusion, nous disons que même au niveau de la rue, puisque à part ça, il y a quand même des initiatives qui ont été faites. On a écrit à la CDAO, on a écrit aux partenaires, aux ambassades et tout cela. Et il y a aussi la rue qu'on utilise, mais au niveau de la rue, ça ne prend pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que moi je fais une double lecture en termes d'hypothèse? Soit les gens sont résignés, les gens ne sont plus intéressés par ce genre d'initiatives, manifestations, ils se disent que ça ne donnera rien et tout cela et autre, ce qui fait que les gens ne sortent plus. Ou alors, l'autre hypothèse, est-ce que cela voudrait dire que peut-être l'objectif pour lequel on les appelle à marcher, ils ne sont pas, ils estiment que ça ne vaut pas, l'objectif n'est pas justifié, est-ce qu'ils adhèrent pratiquement à cette constitution, c'est pour cela que les gens ne sortent pas. Mais ce qui est sûr, les faits sont têtus, c'est que les manifestations ne font plus recettes.
D'accord. Hassel, c'est vrai que on parlait même d'ailleurs de cette manifestation, c'est plutôt le dimanche dernier, le 30 juin dernier bien sûr, à Kassimé ici. Mais ce que moi j'ai pu observer le dimanche dernier, c'est que il y a même des chefs de partis politiques qui ont rejoint même d'ailleurs le mouvement des organisations de la société civile, et pour en quelque sorte arriver à mobiliser plus alors les populations. Donc est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a quelque chose alors qui se fait avec les chefs de partis politiques qui rejoignent aussi le rang de ces organisations pour cette cause de contestation?
Oui, on a vu la présence de certains chefs de partis et autres. Mais quand on parle de mobilisation, ça ne se limite pas qu'aux leaders des partis politiques. Ils ont appelé les populations à répondre à la marche. Mais force est de constater, il faut le dire, si on fait un peu une comparaison avec le passé, on ne peut pas vraiment parler de mobilisation. Ça, il ne faut pas qu'on se voit la face. Quand on voit par rapport au passé, quand l'opposition appelle à manifester, quand on voit la marée humaine, ce n'est pas ce qu'on a vu la fois passée. Même s'il y a eu la présence, comme on le dit, de plusieurs chefs de partis politiques, même si entre-temps, il y a eu une petite polémique par rapport à l'absence de Jean-Pierre Fabre qui s'est fait représenter, quelqu'un qui aurait refusé de saluer quelqu'un et tout. Bon, ça reste quelques détails, mais... on fait une analyse empirique de la situation, ce qui s'était passé sur le terrain. Il faut reconnaître que la mobilisation n'a vraiment pas répondu. Est-ce un défaut de communication en amont ou parce que les populations ne se retrouvent plus en fait dans ce genre de manifestation parce qu'on estime qu'il n'y aura pas de résultat? Qu'est-ce qu'il y en a? Il appartient maintenant à ces politiques-là de se questionner et de voir quoi faire, tout simplement.
C'est parce que vous avez aussi l'impression que la manifestation, enfin, la mobilisation ne prend pas et que on doit chercher d'autres stratégies pour mobiliser?
Non, je crois que le Togo a été toujours ainsi. Lorsque vous voyez après la manifestation monstre du 12 juin 2012, au temps du CST, vous avez vu que les années qui ont suivi, on a noté quand même une faible mobilisation du côté des Togolais. Et cela ne voudrait pas dire qu'ils se sont résignés, parce que tout de suite avec Tchikpi, qui vient plus tard, vous avez vu que c'est presque beaucoup donc l'appelaient à l'époque une révolution, presque une insurrection. Le chef de l'État lui-même disait que c'était une insurrection. Il voulait faire une insurrection pour prendre le pouvoir par la rue. Et donc, le Togo a toujours connu donc ses hauts et ses bas. C'est vrai aujourd'hui, la mobilisation...
Est-ce que ça veut dire qu'à tout moment, ça peut prendre cette mobilisation?
Justement, à tout moment, ça peut prendre. C'est pourquoi je rappelais donc au temps du CST, le 12 juin, il y avait une foule immense à Lomé, le 12 juin 2012.
Et après, bien, c'était à
justement, et après, vous avez vu que tout a sombré, et un plus donc de mobilisation, jusqu'à ce que un Tchikpi ne sorte un beau matin, vous avez vu que ça a encore pris. Et oui, le chef de l'État lui-même, il a dit qu'ils ont voulu même prendre le pouvoir par la rue. Et c'était, tout le monde a vu que certains même disent qu'il n'y aura même plus de 19 août de bis au Togo, parce que c'était la grande qui a failli même fait basculer les choses au pays. Donc, le Togo est ainsi fait. Donc, oui, aujourd'hui, il n'y a pas donc, de mobilisation, mais peut-être demain, il peut y avoir un déclic et ça va encore reprendre. C'est vrai que pour l'instant, beaucoup sont restés encore focalisés sur la constitution, donc de la nouvelle constitution de 2024 et tout ça. Ils sont toujours dans cette logique. Hein, il faut toujours trouver un élément pour mobiliser. Et dès qu'ils trouveront donc le bon élément, et je crois que ça va véritablement marcher. Donc c'est ça, donc ne soyez tout de suite dans... Bon,
merci.
Ça peut prendre à tout moment.
D'accord, nous rappelons même d'ailleurs que le mouvement Touche pas à ma constitution organise même une conférence cet après-midi à Bordeaux-Romé. Et c'est à partir de 14h, surtout toujours sur cette question alors de nouvelle constitution. Abbas, pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que la mobilisation ne prend pas?
C'est la déception même des militants. Les militants sont dessus du comportement même des leaders qui s'entre-déchirent entre eux. C'est le seul
problème. Ils l'ont dit où?
Ils m'ont dit où, comment?
Ils l'ont dit où?
Tu ne vois pas ça?
Ils t'ont dit ça où?
C'est le constat que moi j'ai fait.
C'est le constat d'Abbas.
C'est le constat. Oui. Les militants sont dessus du comportement des militants. Sinon, la dernière manifestation, le meeting qui devait avoir lieu, on s'attendait à un méga meeting parce que c'est ce qui a été annoncé, grand meeting de la société civile.
À Kassimé.
Et par après, c'est les partis politiques qui sont rentrés dedans pour demander à leurs militants d'aller à Kassimé pour soutenir Togo Debout. Quand vous arrivez à Kassimé,
bon, en réalité, ce n'était pas Togo Debout qui organisait.
Oui, c'est des organisations de la société civile.
Avec
l'innovation
internationale.
Ouais, mais celui qui est plus visible, là, c'est Togo Debout. On a écrit sur les tricots noir Togo Debout.
Il y avait l'innovation internationale.
Il y avait l'innovation internationale qui.
Mais finalement, nous avons vu ce qui s'est passé là à Kassimé. Là, c'est plutôt des enfants même qui sont venus les rester là-bas. On ne sait pas s'ils sont aussi.
Non, on ne va pas dire ça quand même.
Des militants.
Non, des images.
C'est des images.
Ah, bah, si j'y étais, donc il y avait aussi des gens quand même qui étaient là.
Il y avait des gens.
Oui, pas les enfants. Enfin, pas.
Est-ce là-bas, c'était sur le lieu?
Il y a les images qui ont circulé. Donc, il faut laisser ça, il faut dénoncer parce que c'est un meeting polarisé qui peut au moins dégénérer à tout moment. Et lorsque ça arrive, est-ce que ces enfants-là, comment ils vont se prendre? Qui va les protéger? Donc, il faut éviter la présence de ces enfants toujours à ces meetings polarisés qui peuvent à tout moment dégénérer et que les gaz vont sortir. Donc, il faut que. On s'entend là-bas, c'est pas que aujourd'hui on dit que on a vu ce qui s'est passé en 2020, on a vu le combat, la lutte qui s'est passée en 2017 et 2018 et en 2020 pour les élections pour l'élection présidentielle et en 2018 pour l'élection les élections législatives. On a vu ce qui s'est passé. Lorsqu'on me demande que c'est les militaires même qui m'ont dit qu'ils sont dessus de leur leader.
Oui, hein? C'était ma question.
C'était ta question. Oui. Tout le monde l'a constaté. Toi-même, tu l'as constaté.
Fabrice, moi, ma question, ça va, c'est vrai. Ce que ces organisations de la société civile demandent aujourd'hui, c'est le retrait pur et simple alors de la nouvelle constitution. Est-ce que c'est possible?
Oui, il y a aussi cela. C'est-à-dire que vous avez commencé un combat dès le début. Au moment où on préparait la chose, des initiatives ont été prises pour bloquer la chose déjà dès la naissance. Ça n'a pas prospéré jusqu'à ce qu'aujourd'hui la constitution a été votée, avec toute la polémique sur le mode même de la validation de cette constitution. Et aujourd'hui, elle est d'ailleurs même, on commence déjà par la mettre en œuvre. Bon. Est-ce que ce qu'il réclamait est exagéré? Mais politiquement, c'est de bonne guerre. C'est-à-dire que vous n'étiez pas d'accord avec quelque chose, vous vous exprimez pour dire que nous ne sommes pas toujours d'accord et nous passerons par tous les moyens, nous allons demander. Bon, le politicien ne s'avoue jamais vaincu, il continue toujours ses initiatives, donc c'est des initiatives politiques. Mais est-ce que ça peut aboutir? Bon, ça m'étonnerait parce que quand vous voyez un peu le processus, peut-être pour retirer cette constitution-là, il faut retourner là où on l'avait votée. Et or, à ce niveau également, les choses ne vont pas en faveur de l'opposition. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut faire une manifestation de rue? Oui, il y a eu des manifestations de rue qui ont entraîné certains changements dans les tests. Parce que quand vous prenez même... lorsqu'on avait remis le verrou de la limitation de mandat, il a fallu 2017, avec toutes les discussions, pour que finalement on déverrouille, pour dire le mandat désormais est limité. Aujourd'hui, on revient à une nouvelle constitution. Oui, politiquement, c'est une activité politique qui est reconnue aux hommes politiques. Il faut toujours, il faut pas se taire, il faut toujours exprimer votre désaccord par rapport à ce qui se passe. Mais pour qu'on retire cette constitution, je crois que c'est pas dans la rue. La rue peut être un moyen de pression, mais pour le faire, ça va être dans un parlement. Bon, alors que le parlement que nous avons aujourd'hui, bon, pour moi, faut pas rêver.
D'accord. Sylvestre, en fait, on a posé la question la fois passée, hein, le dimanche dernier, à, au professeur David Dosset sur cette question alors du retrait de la Constitution et si c'est possible ou si c'est encore possible. Il a fait le parallèle avec cette manifestation au Kenya tout récemment. Justement. Où déjà comment le président de la République, William Ruto, avait introduit même un budget et après tout, avec la manifestation de la population, automatiquement, ça a été retiré par après.
Justement, lorsque vous prenez donc l'histoire des nations, même avant le Kenya, il y a eu le Burkina Faso. Quand la rue se rebelle, entre guillemets, on peut faire pression même sur toutes les institutions. Hein, c'est vrai qu'au Togo, aujourd'hui, l'Assemblée nationale est presque acquise donc, au régime en place. Mais s'il y a une pression, ils peuvent céder et donc revoir les tests. S'il y a eu, comme on l'a vu au Kenya, vous avez vu, les parlementaires étaient prêts, tout le monde avait quand même donné son OK pour le test. Mais quand la rue s'est levée, vous avez vu, ils sont là, ils sont allés même jusqu'au Parlement. Vous avez, et donc ils sont revenus sur les choses. Donc, si la rue gronde, tout le monde peut être obligé hein, de revoir, donc de se raviser, donc de faire ce que demande donc le peuple qui est dans la rue. Donc, c'est cela. Mais si au Togo, on le dit, bon, peut-être c'est les leaders qui le disent, ils voient ce qui se passe ailleurs, mais sauf que, bon, pour l'heure, la mobilisation ne prend pas. C'est la mobilisation ne prend pas.
C'est ça le constat.
Contrairement donc au Kenya et ce que nous avons vu donc au Burkina Faso. Mais bon, ça peut aussi dire que je dis, ça peut prendre également à tout moment si les gens décident véritablement donc de changer leur destin.
D'accord. Alors, merci beaucoup, chers confrères. Nous allons arrêter le débat ici, puisque le principe de l'émission, c'est une émission interactive, vous le savez très bien. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs qui s'impatientent à participer à ce débat avec nous. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et vous comprenez que nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 74 91 36 63 75 pour participer à ce débat. Allô?
Allô?
Oui, Papa Sordiné, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Oh, ça va.
D'accord, allez-y.
Ce que je voudrais dire aux journalistes là-bas, là, c'est-à-dire, il ne faut pas dénigrer le meeting. Il dit que ce sont seulement les petits enfants qui sont là-bas. Non. Bon, il faut faire beaucoup d'attention. Puisque, il y a des gens qui coulent sur les gens dans les gens de la prison à cause de meeting. Actuellement, et si certaines personnes sont devenues handicapées. Donc, les gens ont peur d'aller d'assister à ces meetings parce qu'ils seront arrêtés et mis en prison qui va les recevoir. Merci, bonne journée.
Bonne journée, Papa Sordiné, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Autre auditeur, allô? Oui, bonjour, comment vous allez? Ah oui, Basile, je vais vous prier de diminuer un tout petit peu le volume de votre poste à côté de vous.
Ça ne va pas?
Ça va mieux maintenant, allez-y.
Je salue votre plateau. Bon, moi, j'ai toujours des problèmes avec quelques journalistes. Hein. Moi, je vais tenter de poser la question à Bassé Fabrice. Bon, le Togo, c'est pour l'opposition et pour le pouvoir. Si c'est ça, eux se situent où? C'est où ils se situent? Quand vous dites ça, il y avait eu les mobilisations de masse. Ça, on en a eu au Burkina, ça n'a même pas atteint ça. Le pouvoir s'est dit. Bon, vous êtes ici, quand le pouvoir dit qu'il ne sait pas, soit c'est nous, ou c'est rien, soit on va tuer tout fort. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est ce que moi je ne comprends pas pour eux. Oui, oui, je suis en train de parler, je sais que vous êtes en train de parler en fond sonore, j'entends.
Oui, mais Abbas, comment Basile?
Oui.
Vous proposez quoi? C'est de ça qu'il s'agit.
Oui, oui. Pourquoi est-ce que l'autre dit là-bas que c'est les enfants, il a vu. Il a vu les enfants. Pourquoi il s'intéresse tant à cette opposition que lui...
Mais c'est sa manière de faire l'analyse, et c'est à vous aussi de faire votre analyse. Non.
Ce qu'ils font là... Mais...
Mais Basile, finalement, il semble qu'on ne se comprend pas, puisque nous avons débattu des sujets. L'essentiel, c'est que vous donnez votre point de vue aussi sur alors des sujets débattus ici. 22 21 33 114 91 36 ou 315. Allô.
Oui, allô.
Oui, bonjour Alain.
Oui, c'est Pélé.
Ah, c'est Pélé plutôt. Pélé, comment vous allez?
Un journaliste, il a un seul article. Il est responsable de ses propos et de ses études. Le journaliste, il fait l'analyse sur des faits. Quand vous n'êtes pas là, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Quand vous dites que ce sont les enfants qui sont arrivés là-bas, c'est tout faux. Celui qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. On n'a pas besoin du grand monde pour que le meeting. Le meeting peut être des milliers de personnes. C'est-à-dire que c'est le message qui est important. On a besoin du message. Ceux qui ont appelé les partis politiques et les sociétés publiques qui ont appelé les Togolais à venir savent qu'il y a des Togolais à Djankate, à Saint-Café, à Dakar, qui ne peuvent pas venir là-bas. Et les gens ont pris acte qu'il y a un meeting. Et ce meeting-là, c'est pour un objectif. L'objectif, c'est de parler de la 5e République. Que la population ne s'est pas informée lorsqu'on est en train de dire que nous sommes dans la 5e République, que nous sommes dans une transitoire qu'on ne sait même, on ne connaît pas parce que les initiateurs, le gouvernement ne savent pas ce qu'il est en train de dire. Vous voyez déjà? Donc, si un journaliste n'a pas fait la diagnostic, faut pas qu'il parle et qu'il ouvre. On n'a pas besoin du grand monde qui fait partie du régime RPT-Union. Si vous savez que tout ce qui se passe dans ce pays ne sont pas dans les normes, il faut respecter au moins la population togolaise qui est en train de souffrir, qui est dans la misère, au moment où il y a une minorité qui s'accapare la vie du pays, et dans l'administration, on fait de la surfacturation.
D'accord. Merci beaucoup, oui, Pélé, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 ou 315. Allô.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez? Votre nom, c'est...
C'est Claude.
Claude, vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Agouezongo.
Agouezongo, allez-y, Claude.
Vous m'excusez beaucoup, hein. Les enfants qui sont là-bas, les Togolais, si le responsable ne sait pas réclamer ses droits, les enfants vont réclamer ses droits à sa place. C'est un journaliste et des eaux sales.
Allô, Claude?
Oui.
Oui, je vous écoute.
J'ai dit, hein.
Oui.
Les enfants qui sont arrivés là-bas.
Oui, oui, vous l'avez déjà dit, c'est bon?
Oui, c'est. Oui, d'accord. Maintenant là, nous sommes prêts. Oh. De 4 matins, ça va changer.
D'accord, ok. Merci beaucoup, Claude, pour votre intervention. Allô? 22 21 33 114 91 36 63 75, deux numéros sur lesquels vous pouvez participer à l'émission. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Monsieur Dick, je vais bien. Monsieur Dick de Décon.
Dick de Décon. Allez-y.
Oui. Je vous excuse. Messieurs les journalistes, bonjour à vous tous. Je voulais vous dire par rapport à votre communication. Il y a un intérêt. L'intérêt de la communication, c'est vous. Et si vous voulez véhiculer des informations, il faut vraiment faire un peu attention aussi à votre diagnostic aussi. Bon. Sur le sujet de la réforme, vous savez que vraiment au Togo, s'il doit avoir quelque chose comme la réforme, il doit avoir un appel au peuple. Mais ça n'a pas été le cas. Vous n'avez pas fait l'analyse par rapport à tout ça. Vous savez, les Togolais souffrent. On pleure toujours, à chaque jour, chaque famille pleure. Vous aussi, vous êtes des Togolais aussi. Vous, les journalistes, vous êtes des Togolais aussi. Ressentez ce que la population ressent aussi. Et arrêtez de faire des diagnostics en faisant des balbelles avec des informations qu'il y a des enfants, tout ça. Vous ne voulez pas des Togolais? Vous ne faites pas l'allusion de ce qui se passe au Togo?
Allô, Dick.
Donc, merci, monsieur.
Oui,
Dick. Et faites bien votre travail.
Allez, bonne journée. 22 21 33 114 91 36 63 75, des réactions sur le sujet débattu ici au Club de la Presse. Madame, ici, bonjour.
Bonjour.
ou c'est plutôt une autre dame?
Oui.
Madame, votre nom c'est...
Madame Essie de Assigamé.
Ah, c'est Madame Essie, toujours, mais c'est Assigamé cette fois-ci.
Ça va.
Et allez-y.
Bon, moi j'aimerais réagir sur le sujet de l'école.
D'accord.
Il va falloir que l'école reprenne les cours de 14h à 17h. Parce que à 13h, les enfants sont éparpillés dans la nature. Ils apprennent plus. Et puis les TD aussi doivent reprendre. Et il y a eu un moment, on avait dit que les enseignants prenaient 50-30 ans chez les enfants. Mais il va falloir réorganiser
Merci beaucoup, madame. Ici, depuis Assigamé, ça fait toujours plaisir hein, d'avoir surtout des dames aussi dans cette émission 22-21-33-114. Allô?
Allô, bonjour, Canal FM.
Bonjour, Nestor, comment vous allez?
Oui, je vais bien.
Allez-y.
Oui. Merci pour les informations. Angle soulevé par rapport à la santé, l'éducation, les réseaux sociaux. Et sur le plan politique, la mobilisation ne prend pas. Au-delà, il faut sortir de l'angélisme politique. En gouvernement, il faut l'inclusivité dans la gouvernance, la diminution des aliments de base et des coûts téléphoniques. Merci, Canal FM.
Merci beaucoup, Nestor, pour votre réaction au Club de la Presse 22-21-33-114. 91-36-315. Allô?
Oui, c'est Pélé qui revient.
Oui, Pélé.
Oui, je voudrais demander au peuple togolais, est-ce que c'est la mobilisation qui va penser d'abord avant que son assemblée va gouverner bien le pays? Est-ce qu'il a besoin de la mobilisation de l'opposition? Je ne sais pas si les togolais ne comprennent pas les 8 ans du Pakistan et 20 ans de son assemblée. Regardez un peu ce pays de lui. Regardez un peu ce qui se passe. Paul Nyakunde, il est né à la présidence de Nyakunde Yadima. Il est né à la présidence de Nyakunde Yadima. Et il a fait tout là-bas. Il a été école, okay, collège, tout. Et il a été ministre là-bas. Et il a été président de l'Assemblée là-bas. Et il est devenu président de la République là-bas. Et il fait 20 ans là-bas. Et il le fait 40 ans de plus. Vous ne voyez pas tout ça là? Ayez le courage d'aider ce pays.
Allô? Pélé, je pense que c'est son dernier. Bien sûr. Allô, allô, allô madame ici, bonjour.
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Voilà. Vous savez, moi, on croise les doigts. À chaque fois, on croise les doigts. Pour que l'échéance de 5 ans ou je ne sais pas quoi arrive, pour qu'on alterne, pour être bien. Pour bien vivre. Mais dès que ça arrive, que je vois les dirigeants se mettre en transe, ils déclarent presque la guerre pour rester encore là, à tout remettre à zéro, tout ça. Vous savez comment je m'exclame, comment on dit ça? Et moi, je vous transfère ça à vous là-bas. Je me dis ici, là, mais c'est où qu'on est bon, là? Est-ce que vous êtes content de ce qu'on vit au Togo? Les gens ont refusé d'alterner. Ils refusent de pratiquer la démocratie. Si bien qu'il n'y a pas la santé, il n'y a pas l'éducation, il n'y a rien. Et vous êtes là, vous foutez la gueule des gens. Est-ce qu'on a besoin de faire des métiers, de manifester pour qu'on nous mal, tout ça là, de nous fatiguer dans vos débats là, vos leçons politiques et tout ça là? Est-ce qu'on en a besoin? On a dit un mandat de 5 ans. Là. Hein? Pour qu'on soit bien, pour qu'on soit heureux. Hein? Et puis je vais insuffler un petit truc là. Je vais dire que moi j'ai traîné ma bosse. Et puis dans mes trucs là, je faisais la revue de la presse. C'est pour ça que j'aime la presse, j'aime la politique. Je vais insuffler ça, que je ne suis pas tombée dedans comme un cheveu dans la soupe. Merci.
D'accord, merci beaucoup, madame Essi. Je pense, Michel, nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur hein, pour le compte de cette émission de ce mercredi. Allô?
Ouais, heureusement, es-tu revenu?
Oui, c'est Basile qui est revenu.
Oui,
Basile, allez-y rapidement.
Bon, voilà, quand nous sommes en train d'évoquer. Sur ce qu'il disait constitution.
un journaliste qui sont là-bas, là, eux ne savent pas que le pouvoir fait un coup d'État. Est-ce que les 4/5 des députés peuvent changer une constitution? Mais où vous venez, vous parlez quelque chose dans l'intérêt de la population, où vous êtes venu pour épingler seulement le politicien et vous vous taisez. Quand il y a une question sur le politicien, vous dites que ah, je ne veux pas m'aventurer là. Tout le bien que vous pensez de l'UNI, le Togo là, tout le monde crie. Tout le monde pleure. Mais vous pensez toujours du bien, Christian. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Non!
D'accord, merci beaucoup Basile pour votre intervention. Je pense que Basile, c'est le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce mercredi. Nous revenons en plateau, chers confrères. Et Sylvestre, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur l'actualité telle que débattue ici au Club de la Presse. C'est aussi le principe de l'émission. Nous leur donnons aussi la parole de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent alors des sujets débattus ici. Et vous les avez écoutés, quelle est votre réaction?
Non, je crois que c'est le premier intervenant, et c'était Papa Sordinet, non?
Tout à fait.
Qui décrivait un peu la situation au pays. Il parlait de des arrestations et autres. Ça peut être également un élément qui fait en sorte qu'il n'y a plus de mobilisation. Vous savez, il y a eu tellement une séquence dans le pays. À moins de choses, donc, c'est la police ou la gendarmerie qui est donc devant vos portes. On venait donc de parler donc de Matt Farré et tout. Il y a cette psychose là qui est là. Je crois qu'il y a un artiste qui a fait sortir donc une chanson récemment, Gilbert O, qui disait dit seulement que ça ne va pas être tout cela, donc on va te prendre et mais on le produit bien au la Léo. Il y a une chanson qui circule ces derniers temps là, et là il dépeint un peu la situation. Il y a une psychose. C'est vrai, il y a une psychose au Togo qui fait que bon, beaucoup se rangent, hein, sinon tout de suite ils se retournent de l'autre côté, donc derrière les barreaux et tout ça. Ça peut être également un élément qui fait que la mobilisation ne prend pas. Hein, vous savez, tel que moi je l'ai toujours dit, peut-être il peut avoir un déclic et puis bon, on risque donc de connaître peut-être un 19 août bis. Il y a certains qui disent que bon, ça n'aura plus lieu, mais bon. Tant que les aspirations profondes donc d'un peuple, un peu quand il se bat pour quelque chose, tant qu'il ne l'a pas obtenu, généralement ces peuples-là ne baissent pas les bras.
D'accord. Abbas?
Non, je ne sais pas. On a parlé de la présence des enfants au meeting.
Tout à fait.
Papa Sordinet est revenu sur ça. Et Basile, je crois, au moins 3 ou 4 auditeurs en ont parlé. On n'a pas dit que c'est les enfants qui étaient au meeting. On a dit qu'il y a des enfants, on a constaté la présence des enfants au meeting. Nous dénonçons cela qu'il faut éviter, parce que s'il y a grabuge, ces enfants-là seront protégés comment? C'est ça que nous avons dit. On n'a pas dit que c'est les enfants qui étaient au meeting. Donc quand on parle, il faudrait que les gens nous écoutent et comprennent ce que nous disons. On n'a jamais dit ça. Donc par rapport aux autres qui ont intervenu, on a dit la mobilisation a faibli. Effectivement, la mobilisation a faibli. Il y a beaucoup de circonstances qui ont fait faiblir cette mobilisation. Donc, il faudrait que les Togolais le reconnaissent. S'il y a un déclic, on espère voir quel déclic ça va avoir. Donc, tout le monde est là sur ses gardes, que du côté du pouvoir, que du côté de ceux-là qui contestent. On attend de voir.
D'accord. Fabrice?
Oui, moi, je ne comprends pas un type de Togolais. Je me souviens, lorsque UNIR a fait son congrès à Accra, on a retrouvé les élèves sur l'esplanade du palais des congrès. On a savonné proprement UNIR, on a demandé les élèves cherchent quoi à un congrès d'UNIR et ils sont sur l'esplanade du palais. Il y a eu tout un débat. Souffrez également que si on retrouve des enfants dans un meeting politique, que les gens en parlent. Donc, il ne faudrait pas que... Mais Basile, lui, s'il peut gronder ses enfants à la maison pour qu'ils travaillent et réussir au BPC, je crois que ça lui serait beaucoup plus profitable, parce que nous, on ne nous intimide pas, quoi. Donc, c'est un peu cela. Moi, je ne fais pas de la fiction. Moi, j'ai dit, l'opposition, une partie de la société civile a appelé les populations à sortir pour exprimer leur ras-le-bol ou pour dire non à la nouvelle constitution, à la nouvelle république. Et j'ai constaté que beaucoup de gens ne sont pas sortis. Bon, certains ont appelé pour nous dire qu'on n'avait pas besoin du monde, que c'est le message qui comptait. Je ne sais pas si ceux qui devaient donner le message devaient afin donner ces messages là au hangar qui était autour du terrain ou bien c'était aux hommes. Donc moi, c'est un fait que j'ai traité, c'est-à-dire les gens ont demandé des populations de sortir, mais les gens ne sont pas sortis en grand nombre. C'est un fait. C'est un fait qui a été constaté. Bon, maintenant, moi, je fais pas de la fiction pour dire ça peut prendre un jour, ça ne prendra pas. Ça, c'est pas mon problème. Si demain ça prend, je dirais que ça a pris.
Puisque le journaliste, c'est le fait. Alors, SL?
Non, moi, je ne commente pas les commentaires des auditeurs. Hein. Chacun a son point de vue par rapport à ces informations, à ce qu'il voit sur le terrain. Donc, ça s'arrête là. Mais je voudrais quand même pousser un coup de gueule là, vis-à-vis de Togocom. Je comprends pas trop. Force est de constater que depuis un moment, ça peut remonter à 2 semaines ou 1 semaine. Tu vas faire un dépôt sur T-Money, on te prélève des sous. On n'a rien compris, il n'y a pas eu de communication. Avant, c'est quand tu effectues une opération d'envoi ou tu fais un retrait, qu'on te prélève de là, tu vas déposer sur ton compte et tu constates qu'on t'a prélevé des sous. Par quel mécanisme, par quelle alchimie ça a commencé juste comme ça, combien on prélève et on fait les comptes comment, on ne comprend rien. Au moins, s'il y a une communication pour nous expliquer le bien fondé de cette opération, là, on peut comprendre. Mais quand nous ponctionnons de l'argent comme ça, sans aucune explication, un peu de respect aux clients.
D'accord. Fait. Merci beaucoup, Estelle. Je reste avec vous pour votre note de fin d'émission.
J'ai pas de note. Merci et bonne journée aux auditeurs, merci auditrices, à tout le monde.
Merci beaucoup. Alors, oui, Sylvestre, votre note de fin d'émission.
Moi, je donne 2 aux anciens éperviers, un qui parle via des réseaux sociaux ce livre. J'ai l'impression que le Togo a gaspillé de l'argent. C'est-à-dire que on a amassé donc l'argent donc des Togolais qu'on a remis à 22 ou 24 joueurs et qui aujourd'hui se foutent le bordel. Ça, tout ce qui sort aujourd'hui, hein, donc de ces anciens joueurs-là, je me dis que voilà quoi, c'est du gâchis quoi. On a gaspillé de l'argent en donnant 2 millions par ici, 3 millions par ici, sachant qu'ils ne sont pas conscients.
Et c'est 2 sur 10.
Ils ne sont pas conscients.
2 sur 10 à eux tous.
2.
Oui, Abbas.
Oui, je donne 8 sur 10 au gouvernement par rapport à l'amélioration de l'électricité qui n'est pas aujourd'hui coupée. Donc, au moins, on exhorte aussi le gouvernement et la société à tenir bon jusqu'à ce qu'on ait 10 sur 10.
Il y a de l'amélioration. D'accord. Oui, Fabrice, votre note de fin d'émission?
Oui, je m'aligne sur la note de Sylvestre, mais moi j'enlève Demi sur la note.
Donc cette fois-ci, vous donnez 1,5.
On n'arrondit pas. Hein. 1,5 pour ces anciens éperviers-là qui finalement ne sont pas vraiment utiles à la jeune génération parce que effectivement. D'autres anciens joueurs vont faire des études pour sortir d'entraîneurs autres et servir. Ils peuvent venir entraîner des clubs de D1, D2 et peut-être un jour. Mais le spectacle qu'ils offrent sur les réseaux sociaux, là, ils sont pas vraiment ils sont d'aucune utilité.
D'accord. Merci beaucoup, Fabrice. Merci, Estelle. Merci, Sylvestre. Merci, Abbas, d'être passé alors dans cette émission. Merci pour votre contribution à cette émission Club de la Presse. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous qui avez participé aussi à l'émission, merci à vous. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Akucha. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.